Doar și tu mi și te soe, simt da pe pirit soa. Ai și tu mi să ne soe, simt da pe pina ne soa. Ai și tu mi să ne soe, simt da pe pina ne Ole nana, si come fane, veste ne viali, tia come
Remue-ménage, ondes femmes, Radio Zone 93.8. Dans Remue-ménage, aujourd'hui, une troisième émission pour évoquer le droit d'asile, ce droit remis fortement en cause en Suisse et sur lequel vous devrez vous prononcer, vous, auditrices, auditeurs, qui avez le droit de vote en Suisse le 13 juin prochain. Alba, la situation de l'IDA te faisait penser justement à quelque chose concernant cette loi.
Oui. Alors tout d'abord, c'est un témoignage qui m'émeut beaucoup. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois de personnes de d'autres pays, de personnes du Kosovo, de personnes d'Amérique latine, de personnes d'Afrique. Et c'est le même scénario. C'est-à-dire que c'est le scénario des droits fondamentaux qui sont violés. C'est l'histoire des gens qui s'organisent pour défendre ces droits. C'est la mise en place d'un système de répression, d'intimidation, qui aboutit à des violations extrêmement graves. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à la loi, c'est que l'IDA, si elle arrivait aujourd'hui en Suisse, elle ne pourrait pas introduire une demande d'asile. Elle tomberait sous cette protection collective qui lui empêche précisément. Et comme elle a très très bien expliqué, cela a des implications extrêmement fortes. Par exemple, lorsqu'on obtient l'asile, on est protégé par le principe de non-refoulement. C'est-à-dire les États ne peuvent pas refouler la personne. Alors qu'une admission provisoire, une loi de protection provisoire, c'est au gouvernement de décider que il n'y a plus danger, donc on peut renvoyer la personne. Ça, c'est... Ensuite, il y a la suite. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont liées à l'octroi de l'asile. Par exemple, ces personnes ont droit à une protection sociale individuelle qui comporte, par exemple, des cours de langue beaucoup plus élaborés pour qu'ils puissent s'intégrer. Elles peuvent bénéficier de programmes de réadaptation et de traitement qui ne sont pas octroyés aux autres. L'accès au marché du travail est également plus facilité. Il y a un certain nombre de choses qui permettent l'intégration. Or, l'admission provisoire ne la permet pas, cette intégration. Elle est beaucoup trop précaire.
Je crois que c'est important de préciser ça. L'IDA, de toute façon, toi, tu as obtenu un permis de réfugié, mais comme tu es complètement imprégné dans la communauté kosovare ici à Genève, tu sais bien que c'est évidemment pas le cas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel type de statut ont aujourd'hui une grande majorité des requérants d'asile kosovars qui sont arrivés avant le déclenchement de la guerre telle qu'on en parle en ce moment ? Alba, vous vouliez préciser quelque chose ?
Oui, je voulais juste dire que ce n'est pas un permis de réfugié, c'est un statut de réfugié.
Statut, oui, pardon.
Qui a un cadre
permis
légal très, très précis.
Exactement.
Juste pour les gens qui écoutent.
Absolument, tout est important dans les histoires de loi.
Ouais, la plupart des demandeurs d'asile qui viennent de la Kosovo, ils ont une réponse négative. C'est-à-dire, ils vont rester ici temporairement jusqu'à ce qu'un jour on peut les retourner chez eux. Alors, ils sont toujours en attente. Un jour sera en prolongation dans 30 jours, après on prolonge encore, et puis ils sont toujours en attente d'y retourner. La majorité ont une réponse négative, un permis N ou F.
ces fameux permis. Là, j'ai juste quelques chiffres qui datent, donc fournis par l'Office des réfugiés au niveau fédéral. Jusqu'au 31 août 98, il y a eu 8366 demandes provenant de membres de l'ex-Yougoslavie, donc ça inclut même pas seulement les Kosovars, et seuls 209 personnes, jusqu'au 31 août 98, ont obtenu une décision positive. Donc un très très petit nombre ont reçu ce droit positif. Alors les permis N, les permis F, ça veut dire quoi, Lida? C'est, dans les faits, très concrètement, c'est justement ces demandes qui sont repoussées, une validité, un mois, trois mois, oui. Et on doit retourner régulièrement à l'Office de la Population. Comment ça se passe?
Oui, les permis N, d'habitude, ils étaient en prolongation jusqu'à trois mois. Chaque trois mois, il faut les prolonger. Les permis F sont pour les déserteurs de l'armée, ceux qui ne voulaient pas faire l'armée.
Donc ceux qui ne se sont pas présentés à l'armée du
voilà,
tout.
Voilà, oui.
Et qui leur donnent quel droit, si on peut, s'il y en a?
Bon, officiellement, ils ont le droit de travailler. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours évident, parce que quand on cherche du travail, les gens ne connaissent pas vraiment la situation quand ils voient un permis N ou un permis F. Ou s'ils voient que dans trois mois, il n'y a plus de prolongation, ils ne t'engagent pas.
Alors là, je crois qu'Alba, on peut de nouveau faire le lien avec la loi. Ça, on en a parlé énormément avec nos deux précédentes témoignes, qui chacune précisait bien cette difficulté de chercher du travail, même quand on sait qu'on peut rester une année. Dalila avait un permis qui valait une année, mais même une année. Et qu'est-ce que c'est quand on a cette feuille blanche qui nous assure le délai de départ, qui fait qu'on peut être renvoyé dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit?
Alors, c'est tout le problème des statuts extrêmement précaires et de l'impact qu'un statut précaire a sur les personnes qui sont soumises. Je crois qu'en santé mentale, par exemple, on sait très très bien que pour maintenir cet état de santé, il y a un certain nombre de conditions. Une de ces conditions qui est estimée comme fondamentale, c'est celle de pouvoir faire un minimum de projets de vie, même à court terme. Or, un statut précaire tel qu'elle l'a décrit, c'est-à-dire de permis prolongé de trois mois en trois mois, ne permet pas de faire un projet du tout. Alors, en ce qui concerne le travail, théoriquement, on peut chercher du travail à partir d'un certain moment. Mais ce sont les employeurs qui n'ont pas aucun intérêt d'employer quelqu'un dont on ne sait pas si dans trois mois, il pourra continuer ce travail. Donc, il y a, disons, un écart entre le discours tel qu'on le fait, et qui touche à l'accueil, à la qualité de l'accueil, qui touche aux possibilités pour les personnes de s'intégrer, et puis la réalité telle qu'elle est, telle que ces personnes doivent l'affronter jour après jour.
Alors peut-être aussi c'est l'occasion de donner quelques chiffres pour rappeler quelle est la situation des requérants d'asile lorsqu'ils arrivent en Suisse. Vous parliez tout à l'heure, Alba, d'abus. On met toujours ce mot en immense pour dire voilà, il faut protéger la Suisse des abus en matière d'accueil. Or, qu'est-ce que ça veut dire l'abus quand on sait? Et là, je cite des chiffres que j'ai trouvés dans l'hebdo du 22 octobre 98, qu'un requérant d'asile ou un réfugié de la violence qui a un statut provisoire ou précaire, tel que ceux que nous venons d'évoquer, eh bien, il reçoit, donné par la Confédération, 18 francs par jour et par requérant, et ce dernier doit se nourrir et se vêtir avec 14 francs, 30, précisons, s'il loge dans un centre d'hébergement, ou avec 17 francs 30 s'il habite en appartement. À chaque fois, l'argent de poche et les frais de déplacement sont compris. Et la différence entre ces sommes et les 18 francs que la Confédération est censée verser, couvrir, c'est des faux frais qui sont payés, versés par les cantons. Donc en moyenne cantonale, un requérant touche environ entre 450 et 500 francs par mois et ces barèmes sont dégressifs en fonction du nombre d'individus dans une famille. Par exemple, un troisième enfant ne touchera plus guère que 100 francs par mois. Alors, on a toujours l'air de dire, les gens certains clament, ils gagnent plus que nous, ils sont plus payés que nous, ils sont plus riches que nous. Qui aimerait aujourd'hui vivre avec 450 ou 500 francs par mois?
Oui. Alors, je crois que les chiffres que vous donnez donnent en quelque sorte une petite vision de la réalité. J'ai dit tout à l'heure que un des arguments qui est utilisé pour cette loi, c'est qu'elle est de nature à lutter contre les abus. Or, personne dit qu'il n'y a pas abus. Dans toute société humaine, quelle que soit la situation, on n'a pas besoin d'être requérant d'asile pour qu'il y ait des abus. Hein. Il y a des abus contre les assurances, il y a des abus contre les choses qui sont faits par des citoyens comme vous et moi, Suisse. Donc, là, moi, je n'affirme pas qu'il n'y aurait pas d'abus. Hein. Mais les abus, eh bien, si je commets un abus avec une assurance, eh bien, il y a un code pénal qui sanctionne ça. Il n'est pas nécessaire d'avoir des lois spécifiques. Les abus, les lois qui existent sont tout à fait là pour lutter contre les abus. On n'a pas besoin de lois supplémentaires.
Contre les contrevenants, elles n'empêchent pas tout le monde d'avoir droit à quelque chose, quoi.
Pour le reste, je pense qu'on revient d'abord à des notions de vocabulaire. Par exemple, on entend beaucoup parler de vrais réfugiés, de faux réfugiés. Moi, je m'insurge contre la notion même du faux. Ça n'existe pas, les faux réfugiés. Ou bien il y a une personne qui demande l'asile en conformité de la Convention de Genève et c'est un réfugié, ou bien ce n'est pas ça et donc ce n'est pas un réfugié tout court, c'est un immigrant qui vient chercher du travail. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Le réfugié a droit à la protection qui est dans cette convention. Un immigrant, il n'est pas dans la même situation légale. Il n'a pas, il ne vient pas pour les mêmes raisons, il ne demande pas la même chose. Hein. Mais le flou sur les termes est savamment entretenu, justement pour faire valoir la notion d'abus.
Lida, je voyais que tu réagissais à l'idée de vrais, faux réfugiés. C'est quelque chose aussi qui te fait réagir.
Bah, tout à fait. Ça me fait réagir. Ça me rappelle aussi quand on dit des vrais Albanais, des faux Albanais pour les Albanais d'Albanie et les Kosovars, les Albanais de la Kosovo. Et puis ce qu'elle disait, Alba, c'est tout à fait vrai. On peut parler des réfugiés, vraiment des vrais réfugiés, des vrais.
On se met à dire, à utiliser le même mot de vocabulaire.
Ou bien des émigrés. Mais à mon avis, qui va prendre ce chemin, qui risque même la vie pour revenir ici ou ailleurs et puis faire une demande d'asile pour être un faux réfugié?
Alors peut-être qu'il faut préciser qu'évidemment, depuis que la guerre a éclaté, la guerre au sens traditionnel de la guerre, avec bombardements, etc., plus menaces militaires, destruction de villages, expulsion des populations, d'épuration ethnique, déplacement, tout ce que nous avons hélas beaucoup entendu parler ces derniers temps sur la Kosovo, eh bien la situation a changé, parce que tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure était une situation qui existait jusqu'au début de cette année, avant que ce conflit tout à coup s'amplifie et devienne encore plus monstrueux. Alors, aujourd'hui, il y a un travail nouveau qui est à faire. Il y a des milliers de personnes qui ont fui la Kosovo et qui attendent dans des camps, nous l'avons vu, aux pays frontières. Et ça, c'est peut-être une chose aussi qu'il faut mettre en évidence. On parle toujours, la barque est pleine, on n'en peut plus, on ne sait plus où les mettre. La Suisse annonce toujours qu'elle a un pourcentage d'accueil de réfugiés qui est très élevé comparé à d'autres pays, ce qui est relativement vrai, je crois. Hein. Vous avez un chiffre dans la tête, Alba?
Non, moi je n'ai pas de chiffre précis. C'est vrai que la Suisse à un nombre assez important de réfugiés. Mais moi, je me méfie des chiffres, car quand on y regarde d'un peu plus près et qu'on demande à des spécialistes de vous expliquer, l'on voit des choses qui faussent, en fait, finalement, ces chiffres. Alors, par exemple, dans un certain nombre de pays européens, un nouveau-né n'est pas compté comme réfugié. Par contre, en Suisse, il sera compté comme réfugié. Donc, à mon avis, je ne vais pas tomber dans l'écueil des chiffres où on m'explique justement par des chiffres qu'il y en aurait plus ici qu'ailleurs. Hein.
Mais de toute façon, il y a une évidence, c'est que les pays qui sont toujours proches, immédiats des lieux où il y a les conflits, c'est eux qui accueillent de toute façon l'immense majorité des réfugiés.
Absolument.
On le sait bien, ça c'est de toute façon, il n'y a pas de doute.
Absolument. Ce sont les pays les plus pauvres, les pays du tiers-monde qui ont des... Il y a des pays d'Afrique, hein, par exemple, qui ont une population de réfugiés qui est égale à la population locale et qui hébergent ces réfugiés depuis des années. Alors, je crois qu'il faut, d'un point de vue éthique, être un peu plus modéré sur le langage que nous utilisons ici pour parler de barque pleine, de surcharge de cela. Je crois que nous n'avons pas le droit, vraiment, et il faut revoir les choses d'un point de vue éthique et pas seulement d'un point de vue de propagande ou de stéréotypes qui correspondent pas à la réalité.
Lida, je crois que tu participes, comme beaucoup d'autres, à l'Université populaire albanaise, aujourd'hui, à tenter de trouver des moyens, de trouver une solution au plus vite pour assurer une protection à des gens qui sont en ce moment réfugiés dans les pays voisins de la Kosovo et qui pourraient venir en Suisse parce qu'ils ont de la famille déjà en Suisse. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment l'Université populaire albanaise et la communauté albanaise, bon, à Genève, je ne sais pas si tu as des nouvelles de ce qui se passe ailleurs en Suisse, comment s'organise cette communauté par rapport à cela et les difficultés essentielles qu'elle rencontre pour essayer de porter secours et de venir en aide aux membres de leur famille qui sont dans les camps de réfugiés, soit en Macédoine, soit en Albanie, etc.
Mais vu la... On sait qu'en Suisse, il y a une grande majorité de Kosovars qui vivent déjà là. Alors, les difficultés, bien sûr, qui sont toujours là. Ils cherchent, tout le monde a une famille là-bas. Alors, à l'Université populaire albanaise, justement, on fait des listes pour des membres de la famille qui sont en Macédoine, ou en Albanie ou bien en Monténégro. On aide aux Kosovars qui sont là pour faire une lettre, une demande à l'ODR, à l'Office fédéral des réfugiés, pour que leur famille puisse revenir. Et puis on fait aussi le lien avec toutes les chaînes albanaises, des radios albanaises aussi. On cherche les personnes disparues, les personnes qu'on ne sait pas où ils sont. Alors comme ça, on peut retrouver des familles qui sont hors Kosovo ou bien en Kosovo si jamais ils peuvent attendre la radio, ou bien qu'ils sachent pour l'autre partie de la famille qui est déjà sortie, parce qu'on a beaucoup de familles séparées, qu'ils ne savent plus où ils sont les autres. Il y a quelqu'un qui a pris le chemin vers la Macédoine. On ne sait plus pour les autres s'ils sont à l'intérieur, s'ils sont encore vivants ou non, ou s'ils sont sortis ailleurs. Et puis là, nous, on est tous inquiets. On a tout, on a de la famille, on a quelqu'un. On ne peut pas nier juste à ce moment-là qu'on a besoin d'eux. Alors, on essaye par tous les moyens de faire quelque chose, de savoir où ils sont et s'ils puissent venir nous rejoindre. Et c'est pas facile du tout. Alors, on donne priorité aux personnes qui ont une permisée, qui travaillent.
On donne, c'est qui on? C'est l'Office fédéral des réfugiés.
C'est l'Office fédéral des réfugiés. Mmh. Alors, on a droit d'amener que des parents ou bien des enfants mineurs, moins de 18 ans, ou si le mari travaille déjà là et il a la femme là-bas.
Pourquoi seulement les permis C? Les permis B n'ont pas droit au regroupement familial.
Prioritaire permis C, après le permis B. Alors,
mais là, avec encore des restrictions, il faut être aussi malade.
Il faut travailler, avoir assez de moyens pour les héberger. Et on ne parle plus pour les demandeurs d'asile qui ont un permis N ou un permis F. Alors, s'il y a un grand nombre de la famille, on ne peut jamais séparer la mère de la sœur. Alors, si je vais faire une liste, ou bien quelqu'un d'autre, quand il va faire une liste, il ne peut pas dire je vais amener mes enfants, mes parents, mais comment je vais laisser ma sœur ou mes frères? C'est assez difficile.
Est-ce que ces listes, ça veut dire quoi très concrètement, Lida? Les gens viennent à l'UPA parce qu'ils savent que c'est un lieu de regroupement, et puis ils viennent vous dire aidez-moi à faire ceci ou cela. Ils ont des noms, ils ont quoi? Ils ont des petits points de repère. Ils ont eu des contacts quand même parfois, un téléphone où les choses se passent encore. Comment savent-ils que certains membres de leur famille sont plutôt dans tel camp, tel autre, à tel endroit?
Ouais, dans les camps, ça se passe mieux parce qu'il y a des téléphones portables où ils peuvent téléphoner. On a vu dans les Macédoines, en Albanie aussi, ils ont 3 minutes pour téléphoner à quelqu'un de la famille. Et puis pour avertir qu'ils sont vivants, ils sont là. Ils sont en Macédoine ou en Albanie, je ne sais pas. Mais aussi, on a toujours une majorité de la population qui sont en Kosovo. Et puis, on n'a pas du tout de nouvelles. On ne sait pas du tout s'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus, s'ils ont à manger. Là, c'est très difficile. Alors, les gens qui savent qu'ils ont de la famille dans les camps, alors ils essayent de faire une demande pour qu'ils puissent venir rejoindre. Ils font une garantie pour les prendre en charge. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Alors, on a eu beaucoup de réponses négatives, des lettres typiques.
On a lu dans la presse que certains Kosovars font le voyage pour aller voir dans les camps s'ils retrouvent des membres de leur famille. Tu as rencontré des gens qui ont fait ça?
Oui, bien sûr. Ils sont allés, mais ils n'ont rien pu faire à part voir la famille et puis rester quelques temps avec eux. Mais il y a eu des gens aussi qui ne sont pas pu même entrer dans le camp, à l'intérieur du camp, en Macédoine. Alors ils font la queue devant l'ambassade suisse pendant des jours, s'ils peuvent obtenir quelque chose, mais ça n'a rien donné. C'est très peu qu'on voit des gens qu'ils ont pu faire quelque chose, même s'ils sont rendus sur place.
Quand tu dis on ne les a pas laissés rentrer dans le camp, pourquoi? Quelle est la crainte?
Ça, je ne sais pas quoi dire. Alors, il y a des camps en Macédoine où les gens ne peuvent pas sortir, les autres ne peuvent pas entrer. Alors, c'est les autorités macédoines qui le font.
Et puis, la fameuse histoire de l'ambassade suisse en Albanie, effectivement, on a eu quelques nouvelles, comme quoi le consulat n'était ouvert que 2 heures par jour, donc c'était extrêmement difficile de déposer une demande de visa quand bien même on y aurait parfaitement droit. Est-ce que tu as des témoignages de gens qui ont fait ce parcours du combattant devant les 2 heures de porte ouverte du consulat suisse en Albanie?
Oui, mais en fait, en Albanie, on n'a pas encore reçu presque personne, c'est-à-dire les gens qui sont en Albanie, ils ne peuvent pas sortir. On ne peut pas avoir même pas un visa pour ceux qui sont en Albanie. Alors la Suisse a décidé de prendre 2500 réfugiés, mais en Macédoine, dans le camp de Stankovac. Alors pour les autres, on ne peut rien faire.
Mais c'est là où on voit quand même tout le jeu pervers auquel participent finalement beaucoup de pays. Pourquoi est-ce que c'est le camp de Stankovac? C'est parce que la Macédoine fait pression pour qu'on vide de ce camp. Alors elle ferme la frontière et elle décrète qu'elle va prendre des nouveaux réfugiés dans la mesure où on fait sortir des personnes. Or ces personnes sont sélectionnées par les différents États pour sortir. Hein. Et comme dit, les autres ne peuvent tout simplement pas sortir du camp pour aller chercher un visa éventuel dans une quelconque ambassade. Ils sont, l'armée ou la police de Macédonie qui empêche, a mis des règles extrêmement strictes qui empêchent toute liberté de mouvement aux réfugiés qui sont dans ces camps-là. Et donc, et là, je dis qu'il n'y a pas que la Suisse qui participe à ça, c'est tous les autres, c'est un jeu de pouvoir qui nous échappe parfois complètement, parce qu'il est très subtil, il est très différent du discours officiel. On voit sur place toutes les restrictions qui sont mises. Mais il y a quand même quelque chose dont les journaux ont beaucoup parlé ces jours, c'est celle de deux syndicalistes qui sont quand même allés dans le camp et qui ont ramené une centaine de personnes. Alors, si je le dis, c'est pour dire que si les citoyens peuvent prendre des initiatives, et que ce serait intéressant de s'informer mieux de comment ceux-là sont allés, ont pénétré dans le camp et ont ramené 100 personnes. Il faut multiplier ce genre de choses. On ne doit pas rester passif face au jeu que tous les États font.
je crois que ça, c'est aux citoyens aussi d'imaginer comment il faut mettre leur propre gouvernement face à ses responsabilités, très concrètement.
Oui, ça peut passer beaucoup mieux par les associations, gens qui connaissent bien la voie, parce que les Kosovars qui vivent ici, ils ne connaissent même pas la loi. Ils vont personnellement là-bas, mais ils savent pas. Ils font la queue devant l'ambassade et puis ils ne peuvent rien obtenir. Mais si on fait dans une manière organisée, ça sera mieux.
C'est ce qu'ils ont fait là, justement, les syndicalistes.
Alors, on va revenir à cette idée de désobéissance civile, parce qu'il y a de ça dans l'air, évidemment. Hein, c'est de dire, n'attendons pas d'obéir simplement aux règles qu'impose notre gouvernement. Parlons de la Suisse pour ce qui nous concerne, évidemment.
Mais que pourrons-nous faire en tant que citoyens ? C'est pas de la désobéissance civile.
C'est l'initiative civile.
C'est une initiative qui a utilisé la loi, rien que la loi. Ils n'ont rien fait d'illégal.
Tout à fait.
Disons, ça remet en perspective, je veux dire, que des citoyens d'un pays libre, tout de même, n'ont pas à abdiquer comme ça et puis de dire « je ne peux rien faire ». Ils peuvent déjà utiliser la loi.
Je crois que beaucoup de gens se sont proposés pour accueillir des familles kosovars chez eux. Par exemple, un numéro qu'avait donné la Croix-Rouge, on pouvait se proposer comme... Mais beaucoup de gens sont complètement frustrés puisque ça semble absolument impossible. Est-ce que dans les faits, ça se confirme, Lida ?
Non, ça ne semble pas impossible. Alors, si quelqu'un veut les héberger, on peut les héberger si les gens sont attribués dans le même canton. Alors, ça, c'est tout à fait possible. Et puis, ça sera mieux de les héberger quelque part dans un appartement que dans les abris de la protection civile où on héberge aujourd'hui les réfugiés de la violence qui arrivent.
Mais alors, précise-moi ça, parce que moi, ce que je savais, c'est qu'on ne voulait pas laisser partir les réfugiés dans des familles d'accueil parce qu'on ne les contrôlerait pas comme il faut, par exemple, au niveau sanitaire. C'était l'exemple qui était donné. Ça a été transformé, ça ?
Ça n'a pas été transformé, en fait, dans les voies légaux, quoi. Mais de toute façon, toujours, on peut héberger quelqu'un de proche, avoir l'adresse officielle dans les associations humanitaires ou les associations de l'accueil de réfugiés.
Mais dans les faits, concrètement, le gouvernement suisse n'a toujours pas accepté cet élan de générosité proposé par des citoyens et citoyennes qui seraient prêts à accueillir les gens chez eux. Est-ce que, à ton avis, Lida, ce que la télévision, la radio, etc., qui quand même nous donne pas mal d'informations, faut reconnaître, est-ce que avec ce que tu as toi de nouvelles, de bouche à bouche, les choses correspondent ou est-ce que les choses sont encore faussées, nous qui sommes loin de ce qui se passe, enfin relativement loin, puis cette fois-ci c'est extrêmement proche de nous, on est mal informé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Non, je dirais pas qu'on est mal informé là. On attend tous les jours, mais bon, si on voit les témoignages des réfugiés qui viennent ici, c'est vraiment quelque chose d'affre. On ne peut pas imaginer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Puis les gens traumatisés, on ne peut pas prescrire, on ne peut pas dire avec les mots. Alors si on voit leur visage, on peut lire dans leur visage ce qu'ils ont vécu. Mais quand ils commencent à parler, même moi que j'ai vécu là-bas, et j'ai vu comment ça se passait. Là, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas imaginer.
Shme fat universitet, shme fat universitet. Mos ke frik mojt e to, i ke vlezrit në Kosov, në Kosov e Shqipëri, mos harrojmë dhe qamërin, e gjithë kje. Gzim të madhë ka sot.